France Culture.
Les midis, ça continue. Si vous nous rejoignez maintenant, sachez qu'à 13h, comme promis, je recevrai Vincent de Dienne et Joanne Hibert pour leur adaptation du journal de Jean-Luc Lagarce et la pièce « Juste la fin du monde ». Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Nous en parlions mercredi. La direction du festival d'Angoulême est dans la tourmente, mais aujourd'hui, place aux artistes. Et c'est Anouk Ricard qui a reçu le Grand Prix d'Angoulême, la plus haute distinction dans le monde de la bande dessinée. Elle était en course avec Catherine Meurice et Alison Bell. L'autrice est connue pour son humour décalé et volontiers absurde à destination des adultes comme des enfants. Anouk Ricard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes illustratrice et auteure de BD. Vous venez de recevoir le Grand Prix du Festival d'Angoulême. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette distinction ?
Eh bien, pour moi et pour tout le monde, je pense que ça représente la plus haute distinction en bande dessinée, en tout cas en France.
Et vous étiez surprise de la recevoir ?
Oui, bien sûr. J'étais déjà surprise de faire partie des finalistes. Et encore plus d'être la winneuse.
Alors justement, sur ces trois finalistes, cette année, les trois étaient des femmes. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, de l'état de la bande dessinée aujourd'hui ?
Je pense que cela dit simplement qu'il y a plus de femmes qui font de la BD. Tout simplement.
Vous avez longtemps été illustratrice. Quel a été le déclic pour vous autoriser à écrire ?
C'est mon premier livre que j'avais fait aux éditions du Rouergue. C'était parti d'une petite carte de visite que j'avais dessinée. C'était les débuts des CD-ROM interactifs. Et donc j'avais fait un petit livre interactif avec une petite souris découpée. Et on pouvait cliquer avec la souris pour tourner les pages. Et à ce moment-là, c'était arrivé dans les mains de Olivier Douzou, qui travaillait aux éditions du Rouergue à l'époque. Et quand il a vu cette carte, il m'a demandé d'en faire un livre. Voilà, ça a commencé comme ça. Et peut-être que c'est là que j'ai commencé à écrire vraiment, à devenir autrice. Après, bon, quand on est étudiant, quand on fait des études d'art, moi j'ai fait des études en illustration. Donc j'avais aussi des travaux de livres, des travaux de bande dessinée où on nous apprenait à écrire quoi et à dessiner.
Dans vos ouvrages, vous pratiquez volontiers le décalage, que vous vous adressiez d'ailleurs aux enfants ou aux adultes. Est-ce que vous pensez votre travail différemment selon le public visé ?
Pas vraiment. Quand j'ai commencé avec Anna et Froga, pour moi c'était vraiment... C'était destiné à la jeunesse, mais j'avais aussi envie que les parents apprécient mes histoires. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée plus orientée adulte, on va dire, il n'y a pas eu beaucoup de changements, en tout cas pas dans le dessin. Et dans les histoires, peut-être plus des références que n'auraient pas les enfants, donc j'ai rajouté quelques références. Et puis, peut-être des gros mots à un moment. J'en mets plus trop maintenant, mais voilà, au début, c'était comme ça.
Parce que vous vous permettez beaucoup d'humour et cet humour un peu absurde, même dans les ouvrages pour enfants. Vous tenez à vous adresser justement aux enfants avec ce décalage-là ?
Oui, ça me plaît de ne pas prendre des enfants pour des gros bébés, on va dire. Enfin, moi, je sais que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup lire des livres, même qui étaient destinés aux adultes et que je comprenais pas forcément. Et ça, pour moi, c'était comme essayer de rentrer dans le monde des adultes par une autre porte, quoi. Enfin, je lisais par exemple Claire Bretéché, je comprenais la moitié des histoires parce que c'était vraiment que des histoires d'adultes. Et les choses que je comprenais pas, ça m'intriguait et ça m'intéressait. D'essayer de les comprendre.
Le Festival d'Angoulême, ça tient quelle place quand on est un auteur de BD aujourd'hui ?
Ça tient une grande place toujours, parce que c'est un énorme festival international, on découvre plein de choses, il y a toujours des belles expos, il y a toujours des choses à découvrir.
Et le festival de cette année commence dans une ambiance un peu tendue, suite notamment à l'enquête de l'Humanité qui vient de paraître concernant la gestion du festival. Comment vous avez reçu ces informations ?
Ben forcément, j'ai été très touchée de lire les articles. Je suis vraiment solidaire des victimes de violences. Donc, c'était ça m'a interpellée, évidemment, et touchée.
Bien, merci beaucoup Anouk Ricard et puis encore bravo pour ce prix, pour ce grand prix.
Merci à vous.
Et de nombreux auteurs et autrices sont attendus à Angoulême ce week-end.
Oui, ils viennent présenter leurs ouvrages et parmi eux, une star de la BD coréenne propose son dernier roman graphique documentaire sur Kim Jong-un. Komsung Jendri Kim, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître Mon ami Kim Jong-un chez Futuropolis. C'est un roman graphique, une bande dessinée, mais c'est surtout un témoignage privilégié sur le dictateur nord-coréen. Comment avez-vous travaillé pour construire ce récit si documenté sur une personnalité qu'on a du mal à approcher ?
D'abord, j'ai pensé quel est le rapport vraiment entre lui et moi, entre lui et les nord-coréens et les sud-coréens. En parlant de ma vie quotidienne, je voulais enquêter sur lui, sur la Corée du Nord.
Quelles ont été les réactions suite à la sortie du livre en Corée ?
En Corée, c'était assez violent parce que, comme le titre est « Mon ami Kim Jong-un », les gens croient tel qu'il est. Donc j'avais eu des menaces et des insultes.
Mais une fois qu'on lit le livre, on voit bien que le projet est un peu différent.
Bien sûr, mais aujourd'hui, les gens ils lisent pas, ils jugent avant de le lire.
Et la réaction dans les autres pays ?
Je pense que c'est un peu similaire. On a déjà sorti au Brésil. J'ai entendu aussi un peu, il y avait des histoires en France. Mais après, une fois que les lecteurs ou lectrices ils lisent le livre, ils changent d'avis.
Alors, vous l'avez dit, vous venez de Corée du Sud, mais vous avez grandi tout près de la frontière avec la Corée du Nord. Qu'est-ce qui vous intéressait dans le fait de travailler, de produire ce documentaire sur ce leader nord-coréen ?
Ça fait 6 ans que j'habite en fait près de Corée du Nord. Mais le fait d'habiter pas très loin, en fait, on sent vraiment la tension entre deux pays. Selon aussi le gouvernement sud-coréen, il y a des tensions qui augmentent, il y a des tensions qui baissent.
Ce qui est troublant dans votre ouvrage, c'est qu'on découvre aussi la jeunesse de ce leader-là et une jeunesse qu'on pourrait qualifier de presque normale. Quand, par exemple, il va faire ses études à l'étranger, il est considéré comme n'importe quel garçon de son âge.
Tout à fait, c'est ça qui était intéressant parce qu'en fait finalement, même le dictateur, il fait partie de l'humain, hein, il n'est pas non plus un dieu comme on le croit en Corée. Hein.
Alors, la Corée est aujourd'hui un pays qui fait rêver beaucoup d'Occidentaux, on la connaît notamment via sa musique ou encore par des séries. Est-ce que vous voulez proposer une vision historique de votre pays pour rétablir un petit peu les choses ?
Bien sûr, on a K-pop qui est très connu, la série télévisée, le cinéma et tout ça, c'est très connu. Mais par contre, il faut pas oublier l'histoire parce qu'on est toujours théoriquement en guerre. Il faut pas la génération d'aujourd'hui et la suivante. C'est pour eux que j'ai fait ce livre.
Vous allez présenter votre ouvrage à Angoulême ?
Oui, tout à fait. C'est la première fois que tu présentes ça en France, oui.
Bien, merci beaucoup, Komsung Jendri Kim.
Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, des inédits de Tennessee Williams.
Oui, des nouvelles de jeunesse de Tennessee Williams, jusque-là inédites en France, viennent d'être publiées chez Robert Laffont, traduit de l'anglais par Aline Azoulay-Pagvon. Ce recueil propose de découvrir 7 nouvelles du dramaturge américain. Rédigées avant son succès, on y lit déjà les fondements de son œuvre future. On retrouve notamment l'histoire d'un évangéliste qui va au cinéma après avoir reçu un message directement de Dieu, ou encore celle d'une octogénaire qui tente d'assassiner ses 2 chiens pékinois.
J'adore. Et pour finir, une recommandation débute aujourd'hui à Marseille, le festival Parallèle qui se déroule jusqu'au 8 février prochain.
Dédié aux pratiques artistiques émergentes, le festival propose dans différents lieux de la cité phocéenne de la danse, du théâtre, des performances, des lectures, des projections ou encore des expositions. Près de 40 artistes sont invités cette année autour de la thématique « Notre part belle », un slogan d'espoir dans un monde divisé. Il sera possible par exemple de voir le documentaire de Nina Gazagnol Vérité qui a suivi plusieurs femmes ayant recours à la chirurgie esthétique ou de venir découvrir le spectacle Jeune public sauvage de la compagnie Loba qui raconte l'histoire de 3 jeunes qui partent vivre dans la forêt. Et bien sûr, comme chaque fois, le programme complet est à retrouver sur la page du Point Culture.
Merci Marie. Alors lundi, on retrouvera Sophie Catherine Gallet pour le Point Culture. Ça veut dire que vous êtes en vacances.
Je suis en vacances.
Bonnes vacances Marie.
Merci beaucoup Marie.
En attendant, il est bientôt 13h et vous êtes sur France Culture.